Bonjour à tous, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire de ce magazine, du 31 mars au 2 avril, c'est Mon Aglo pour l'emploi à Oraison et Manosque. Forum pour l'emploi, job d'été pour les jeunes et une soirée pour les entreprises sont au programme. Dans le cadre de la semaine de l'apprentissage, nous nous sommes rendus au CFA de la CCI 04 à Manosque. Reportage dans ce magazine. Nairi Boudet est une sexothérapeute installée depuis peu à Sisteron. Chris Alessandri l'a rencontrée et interviewée. La 48e rencontre cinématographique de Digne a lieu du 29 au 31 mars. Films et courts-métrages seront projetés et primés. Créations et découvertes sont au menu. L'association Désir de lire propose trois rendez-vous avec des auteurs et éditeurs à Sigonce. Nous entendrons sa présidente, Evelyne Sagne. Enfin, ce dimanche, Rayane accueille La Diva du Sofa, une comédie sur fond de showbiz. Des détails à la fin de ce magazine. DLV Aglo pour l'emploi.
Durance-Luberon-Verdon agglomération reconduit pour la sixième fois l'opération Mon Aglo pour l'emploi. L'événement, ou plutôt les événements, ont lieu à Oraison et Manosque du 31 mars au 2 avril. La soirée entreprise ouvre le banc jeudi 31 mars à Oraison avec une thématique transversale, la transition. Après le Covid, avec la montée en puissance du numérique, réseaux sociaux et risques de cyberattaques en ligne de mire, les évolutions du commerce, les besoins énergétiques et leurs coûts ou les aspects environnementaux, les éléments de transition imposent leur rythme aux entreprises. Les partenaires de l'opération, notamment Chambre consulaire et Initiative Alpes-Provence, inviteront les entreprises à la réflexion et l'action. Manosque va accueillir les deux journées suivantes, le forum Pôle emploi, puis les jobs d'été, en direction des jeunes. Le 1er avril, matinée spécifique pour les demandeurs d'emploi, avec des offres et des ateliers proposés par Pôle emploi. À noter un espace dédié au métier de l'agriculture, un secteur qui recrute. Et puis, c'est un point fort de l'événement, des contacts directs entre les visiteurs et les entreprises présentes. Enfin, samedi 2 avril, le forum Job d'été s'adresse aux 16-25 ans avec des recrutements en direct. Il y a 320 postes pour les jeunes à pourvoir, plusieurs espaces ciblés, coopérative jeunesse de services, déclic insertion ou encore BAFA, les secteurs qui recrutent, agriculture, agroalimentaire, services aux entreprises et aux particuliers, intérim et bien sûr, hôtellerie, restauration où le manque de bras est criant. Les agents du centre social de Manosque et Mission Locale seront présents aux côtés des entreprises locales. Je vous propose d'écouter Laurence Guillamot, la directrice de l'agence de Pôle emploi de Manosque, mais d'abord Jean-Christophe Pétrini, le président de DLV Aglo. Jean-Christophe Pétrini, c'est la sixième édition de Mon Aglo pour l'emploi.
Oui, tout à fait. Nous espérons que cette année, avec les contraintes que l'on a eues les deux années précédentes avec le Covid, ces manifestations puissent retrouver tout l'engouement qu'elles avaient jusqu'à présent. Cette année, donc, nous réalisons trois journées, du 31 mars au 2 avril, et nous externalisons Mon Aglo pour l'emploi sur Oraison cette année, puisque la première journée, le 31 mars, sera consacrée aux entreprises, une soirée entreprise qui va être organisée sur Oraison, où on va spécialement, en direction des entreprises, les aider au niveau de la transition numérique, de la transition environnementale et du commerce post-crise. Donc ça, c'est la première journée. La seconde journée, en partenariat avec Pôle emploi, une seconde journée le 1er avril où l'on va essentiellement axer cette journée sur les demandeurs d'emploi. Énormément d'ateliers seront mis en place pour les demandeurs d'emploi au sens général du terme. Et la dernière journée, plus spécialement dédiée aux jeunes, puisque on avait déjà organisé ce genre de journée qui sera essentiellement dédiée aux jeunes pour les emplois d'été, saisonniers d'été, et qui vont, je l'espère, permettre à nos jeunes du territoire à trouver un emploi pour l'été entre les périodes scolaires.
On sait que certaines entreprises, certains secteurs sont en souffrance actuellement. Le Forum pour l'emploi, de manière générale, ces trois journées peuvent leur servir ?
C'est vrai qu'à l'heure actuelle, et notamment pour ne pas les citer, le secteur du transport qui a de peine à trouver des salariés, et donc ils seront présents puisque nous avons de grosses entreprises sur le département et aussi sur le territoire de l'agglomération. Il y a des secteurs en crise qui peinent à trouver des collaborateurs, donc ils seront présents sur place en espérant qu'ils puissent trouver des personnes adéquates pour leur entreprise. Je tiens quand même aussi à souligner et à remercier tous les partenaires, puisqu'il n'y a pas que DLV Agglo qui met en place ces manifestations-là. Nous sommes aidés, je l'ai dit tout à l'heure, par Pôle emploi, par Initiative Alpes-Provence, par la CCI, par la Chambre des métiers et de l'artisanat, par la Chambre d'agriculture. Donc cette année, un accent sera mis sur le monde agricole, et qui est lui aussi en demande, notamment au niveau de l'été, hein, puisque ce sont des périodes très importantes pour eux. Le Centre social de Manosque et bien entendu la mission locale que j'ai l'honneur de présider sera présente, notamment au niveau des jeunes de 16 à 25 ans.
Laurence Guillamot, vous dirigez l'agence Pôle emploi de Manosque et vous proposez, dans le Forum pour l'emploi du 1er avril, 300 postes minimum.
Tout à fait. Ce forum emploi organisé par le Pôle emploi de Manosque se fait en partenariat avec la DLVA dans le cadre de Mon Agglo pour l'emploi. Et ça se passe effectivement le vendredi 1er avril de 9h à midi dans la salle OSCO Manosco. Forum emploi multisectoriel, donc tous les secteurs principaux d'activité du territoire seront représentés. De nombreuses entreprises avec effectivement au moins 300 offres, ça c'est le comptage au jour d'aujourd'hui, mais on a des employeurs qui s'inscrivent jusqu'à la veille du forum, donc je pense qu'on devra pouvoir proposer plus que 300 offres d'emploi le jour même. Également, sachez que le 1er avril, dans la salle OSCO Manosco, il y aura un focus sur les métiers de l'agriculture. Donc, en plus d'exploitants agricoles qui cherchent du personnel, nous aurons la présence de la Chambre d'agriculture, de la MSA et de la FDSEA. Quelques organismes de formation également à l'intérieur du forum avec des démarrages de formation prochains.
Il y a des secteurs qui sont en souffrance, on le sait, et qui cherchent à recruter. C'est l'occasion justement, on peut citer peut-être quelques secteurs.
Des secteurs qui sont très très en demande de personnel en ce moment sur le bassin manosquin. Il y a d'abord le secteur hôtellerie, restauration, tourisme, effectivement, puisque la région attire de nombreux touristes et la saison va commencer. On a également, je l'ai cité déjà, l'agriculture, idem, donc la saison va commencer, les exploitants agricoles vont avoir besoin de saisonniers et on parle vraiment d'opportunités de faire des saisons longues. Il y a des contrats courts pour l'été, mais il y a aussi la possibilité de faire des saisons plus longues dans ce secteur. Et puis l'industrie, alors les entreprises industrielles autour de Manosque ont bénéficié pour pas mal d'entre elles du plan France Relance et ont pu développer leur activité, acheter de nouvelles lignes de production et donc ils ont besoin de personnel pour faire marcher ces lignes de production. Donc il y a aussi pas mal d'emplois dans l'industrie. Et puis dans les secteurs qui seront représentés, je peux citer aussi les services à la personne, pareil, hein, c'est un secteur où il y a des besoins croissants du fait du vieillissement de la population, le transport, un certain nombre d'entreprises d'intérim qui seront présentes et qui proposent des offres un peu dans tous les secteurs, notamment le BTP. Enfin voilà, plein de secteurs représentés avec plein d'opportunités de pouvoir trouver un emploi. CDI majoritairement, si on s'en réfère au précédent forum et les entreprises proposent essentiellement des CDI, mais également des contrats saisonniers pour des saisons qui peuvent aller jusqu'à 6 mois. Et je rappelle aux auditeurs que 6 mois, c'est le nombre de mois minimum de travail pour pouvoir ouvrir des droits à l'assurance chômage ou recharger ses droits. Donc c'est important effectivement de pouvoir là, dès le 1er avril, saisir des opportunités d'emploi qui vous amènent à minima jusque fin septembre. Et ce qui vous permet de pouvoir vous projeter plus tranquillement dans l'avenir.
apprentissage formation, la CCI 04, toutes portes ouvertes.
Dans le cadre de la semaine de l'apprentissage, la traditionnelle journée portes ouvertes a permis aux services de la Chambre de commerce et d'industrie des Alpes-de-Haute-Provence de présenter leurs offres et les formations proposées. À Manosque, au 264 rue Berthelot, pour Supalternance et ses secteurs commerce et tourisme, mais également à l'éco-campus de Sainte-Tulle pour ce qui est des énergies renouvelables et des formations techniques. Une journée qui permet aux futurs apprenants de rencontrer les équipes pédagogiques et aussi des jeunes actuellement en formation. Parmi les offres DBTS, Management Commercial Opérationnel, Support Action Managériale, Tourisme ou encore un BTS Négociation Digitalisation de la Relation Client, des bacs plus 3 également pour des responsables opérationnels, distribution ou développement commercial et un diplôme spécifique banque et finances, sans oublier les offres actuelles et à venir en tourisme, hôtellerie et restauration et les certificats de qualification professionnelle CQP pour former des agents technico-commerciaux. À noter que Supalternance planche sur un bac plus 3 immobilier pour la rentrée de septembre qui se fera au 264 bis. Dossier immobilier justement et de développement du CFA à Manosque où seront regroupés tous ces diplômes. Un recentrage des formations qui quitteront l'éco-campus de Sainte-Tulle où elles se déroulent actuellement. L'établissement tulésain propose lui un panel ciblé énergie renouvelable en liaison avec le CNAM d'Aix-en-Provence qui amène son expertise et son réseau. Ainsi, Bac plus 3 ou une licence pro maîtrise de l'énergie et développement durable et des projets Bac plus 1, bâtiment et architecture et des titres professionnels à vocation technique et énergie renouvelable. L'établissement propose même un CQP opérateur de fabrication chimie et cosmétique, solaire, biomasse, éolien ou les projets liés à l'hydrogène, les atouts de l'éco-campus intéressent directement la région et ses entreprises. Je vous propose d'écouter deux responsables de la CCI 04, Cyril Ours est en charge du pôle formation de la Chambre et Adeline Chenal qui est membre du bureau. Cyril Ours, vous êtes responsable du pôle formation à la CCI 04. Cette journée portes ouvertes a un but, c'est évidemment faire savoir vos formations.
Tout à fait, c'est de permettre à tous les jeunes intéressés par l'alternance, par l'apprentissage ou les contrats pro, dans les domaines du commerce et des services, de venir visiter notre site, rencontrer les futurs enseignants, rencontrer des alternants qui aujourd'hui sont en formation. Donc ça, c'est ici à Manosque, mais aussi sur le site de Sainte-Tulle, d'avoir une visite du site EcoCampus Provence Formation et de découvrir les métiers ouverts grâce aux formations tournées autour des énergies renouvelables et de l'industrie que nous réalisons sur le site.
Parce qu'il y a effectivement deux pôles, le côté service, commerce d'un côté, et puis par ailleurs à l'éco-campus, tout ce qui concerne les énergies renouvelables.
Oui, la Chambre de commerce et d'industrie a fait le choix de scinder son activité en deux CFA. Donc le premier, c'est Supalternance Provence qui travaille dans le métier du commerce des services. Le deuxième, c'est EcoCampus Provence Formation qui travaille dans l'industrie et les énergies décarbonées.
Vous avez beaucoup de diplômes qui sont proposés pour les personnes et notamment pour les apprentis.
Aujourd'hui, il y a 8 diplômes ouverts sur Supalternance Provence, dans les domaines du commerce et des services. On a 5 BTS et 3 bachelors, donc niveau Bac plus 3. Et sur l'EcoCampus Provence Formation, dans les métiers techniques, il y a 4 diplômes ouverts entre les énergies renouvelables et la chimie.
Vos personnels sont mobilisés pour ces journées portes ouvertes ?
Tout à fait, aussi bien le personnel purement CCI, à travers les enseignants et les équipes pédagogiques de la CCI, qui sont sur les deux sites, personnel de la CCI, mais aussi enseignants et alternants qui se joignent à nous pour accueillir leurs futurs collègues dans les premières années de la formation.
Et puis nous y reviendrons, mais on peut déjà l'annoncer, au mois de septembre, toutes les formations du CFA se feront à Manosque.
En effet, dès septembre, les formations de Supalternance Provence, les formations du commerce et des services vont revenir sur Manosque, au cœur de la ville, en proximité avec tous les moyens de locomotion et au contact direct des entreprises pouvant les accueillir.
Nous en reparlerons bien évidemment à vos côtés. Adeline Chenal, qui est membre du bureau de la CCI 04, ce volet formation, c'est essentiel à la Chambre de commerce.
Oui, effectivement, la formation est un véritable enjeu stratégique pour la Chambre de commerce et d'industrie sur notre territoire, puisque l'idée est d'accompagner toujours mieux nos entreprises au plus près de leurs besoins. La formation, à travers finalement le levier de l'employabilité qu'elle offre derrière, est un véritable besoin des entreprises de notre territoire. On a donc décidé sur cette mandature, effectivement, de mettre des moyens importants pour le développement de la formation, avec notamment, vous l'avez dit, l'ouverture du site Durance 264 bis pour toutes les activités de Super Alternance Provence. Et par ailleurs, ben voilà, nous avons des projets pour travailler sur des nouvelles modalités aussi de formation, ouvrir à la multimodalité, notamment des formations distancielles, pour pouvoir aussi couvrir l'entièreté de notre territoire géographique, qui est un vaste territoire, avec notamment des activités de montagne, des activités un peu plus portées vers Vinon sur le tourisme, etc. Et derrière tout ça, évidemment, un enjeu de pérennité pour notre activité formation, qui signifie pouvoir développer aussi un chiffre d'affaires suffisamment conséquent pour que cette activité formation perdure dans le temps au sein de la CCI.
Il y a également une volonté innovante, par exemple, je pense notamment à l'éco-campus sur les métiers liés aux énergies renouvelables.
Oui, effectivement, notre volonté est toujours d'aller chercher justement des volants d'innovation, notamment sur des thématiques comme l'hydrogène, les éoliennes, comme le solaire. L'idée étant de répondre aux besoins des entreprises du territoire, mais d'avoir toujours aussi un cran d'avance, de faire part, voilà, que notre territoire soit un territoire d'innovation, un territoire de développement.
Cyril Ours, si on veut se renseigner de plus ample manière, un numéro de téléphone, un site internet éventuellement?
Tout à fait, chacun des CFA dispose d'un site internet dédié, donc Supalternance Provence pour les formations tertiaires et commerce et Ecocampus Provence Formation pour les formations énergie décarbonée et industrie de Sainte-Tulle.
La sexothérapie, un dialogue concret, assisteront.
Nous vous proposons une rencontre avec Nahiri Boudet, sexothérapeute établie depuis peu à Sisteron. Elle est spécialisée en sexologie et thérapie de couple. Ses séances reposent sur un échange verbal au cours duquel les problématiques sexuelles liées à des troubles psychologiques, émotionnels et biologiques sont analysées. L'accompagnement spécifique permet alors à chaque individu de mieux vivre ses relations affectives et sexuelles. Pour cette professionnelle de la sexothérapie, nos désirs comme nos peurs, nos paradoxes ou encore nos incertitudes sont multiples et complexes. Pourtant, une meilleure compréhension de ceci peut permettre de créer des liens plus sincères, plus concrets et plus enrichissants avec l'autre ou les autres. Nahiri Boudet répond aux questions de Chris Alessandri.
Nahiri Boudet, vous êtes sexothérapeute et thérapeute de couple. Vous vous adressez donc aux personnes qui ont des problèmes sur leur sexualité en général. On peut dire ça comme ça ?
C'est justement quelque chose que je voulais aborder, en fait, que les relations affectives et sexuelles ne soient pas forcément abordées sous l'angle du problème, c'est-à-dire ne sont pas invitées à venir discuter de ces problématiques-là, uniquement les personnes qui souffrent forcément ou qui attendent le dernier moment juste avant de se séparer, mais vraiment les personnes qui se demandent « qu'est-ce que je veux faire avec mon conjoint ou avec ma partenaire ? De quelle façon on a envie d'habiter ensemble ? De quelle façon on a envie d'avancer ensemble ?» Quand, par exemple, la question d'un enfant se pose ou l'arrivée d'un enfant, eh bien, du coup, la dynamique du couple va se réélaborer. De quelle façon est-ce qu'on peut se partager les tâches ménagères? Donc, ça va du plus pragmatique à de quelle façon est-ce qu'on peut se rencontrer à nouveau amoureusement. Donc, voilà, ça fait vraiment partie des clichés que j'essaye de démonter. C'est-à-dire, on vient ici, non pas parce qu'on a un problème sexuel, même si on peut rencontrer effectivement des dysfonctionnements de type sexuel et qui peuvent être vécus comme des problèmes. Mais à ce moment-là, le problème, de voir ça comme un problème, il s'agit déjà d'une interprétation. Pour moi, c'est un symptôme à partir duquel on va travailler, savoir qu'est-ce que ça signifie pour cette personne, de quelle façon est-ce que ça agit dans sa vie, sur son couple, et comment apprendre à vivre avec ou bien dépasser ça.
Nahiri, vous intervenez dans plusieurs domaines, alors que ce soit pour les adolescents, le couple, la personne individuelle. Quel est le rayon d'action que vous avez ?
Je dirais que je reçois une population qui va de 7-8 ans à 75 ans, avec évidemment une majorité de personnes entre 30 et 60. Mais c'est vrai que, par exemple, pour toutes les questions qui touchent à la pornographie, les jeunes enfants, par exemple, qui sont amenés parfois à tomber sur de la pornographie et qui ne savent pas forcément comment interpréter ce qu'ils ont vu ou qui... je parle pas forcément de traumatisme, mais qui ne savent pas forcément comment se positionner par rapport à ça. Et il manque un discours des adultes qui puisse les aider à contextualiser ce qu'ils ont vu ou entendu ou que les copains ont montré. Donc du coup, je reçois des parents qui sont inquiets pour leurs enfants, des jeunes adolescents qui se questionnent sur leurs pratiques par rapport à la pornographie ou bien tout simplement par rapport aux réseaux sociaux, comment exister sexuellement sur les réseaux sociaux, par rapport aux groupes d'amis, comment exister en tant que femme, comment exister en tant qu'homme, doit-on pour autant montrer ses attributs féminins, masculins? Voilà, donc, et finalement, ce sont des problématiques qui nous touchent tous, que l'on soit adolescent ou bien que l'on ait 70 ans.
Dans la routine du couple, entre guillemets, la routine, qu'est-ce que vous retrouvez comme, on va dire, comme profil de personne? Quels sont les conseils que vous pouvez donner? Est-ce que l'érotisme fait partie, par exemple, de ces conseils, de ces applications qu'il faut mettre peut-être en suggestion?
Il y a effectivement des sexologues qui mettent l'accent vraiment sur la vie sexuelle du couple. Moi, j'essaie de faire en sorte de questionner ce postulat, justement. On a tendance, dans notre société, à considérer que le sexe, c'est le ciment du couple, que lorsque on est un couple et qu'on n'a pas de relation sexuelle, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça me dérange profondément parce que ça crée de nombreuses inquiétudes dans le couple, justement. Est-ce qu'on fait assez l'amour? Est-ce qu'on se rencontre assez sexuellement? Est-ce que si je ne fais pas l'amour avec mon compagnon, est-ce qu'il va se mettre à désirer quelqu'un d'autre? Donc c'est surtout de quelle façon est-ce qu'on a envie de se rencontrer? À ce moment-là, oui, on peut préconiser la rencontre érotique, mais l'érotisme, c'est... chaque personne a une vision particulière de ce qu'est l'érotisme. Nous avons tous des régions, des zones érogènes qui sont différentes du fait de notre histoire individuelle. Et donc, du coup, pour une personne A, ce qui est érotique ne sera pas la même chose que pour une personne B. Donc, vraiment, on s'éloigne de tout ce qui est cliché, mettre de la dentelle rouge avec du vernis ou faire du sport pour avoir des abdos. C'est de quelle façon est-ce qu'on peut se rencontrer pour se désirer? Comment créer un contexte à l'intérieur duquel on peut éprouver du désir? Sachant que là aussi, c'est un processus, comme la confiance. C'est pas tout d'un coup, je me réveille et j'ai du désir. C'est qu'il y a un préalable à la construction du désir. Et donc, pour cela, il faut se rencontrer, il faut se toucher. Il n'y a pas de « il faut », mais c'est-à-dire, c'est « qu'est-ce qui me fait du bien, en fait ?» Pour être désiré, je dois être aussi désirant. Et donc, c'est un cercle comme ça. Je suis désiré, désirant, désiré, désirant. Je suis désiré parce que je suis désirant. Et c'est comme ça qu'on avance, parce qu'on sent l'attention de l'autre, la reconnaissance dans le regard de l'autre, et le désir naît à l'intérieur de toute cette dynamique.
Sur le sujet délicat de la transidentité, est-ce que vous intervenez?
Ben moi, ça m'intéresse beaucoup, la transidentité, parce que les questions de genre m'ont interpellée depuis que je suis adolescente. Je me demandais qu'est-ce qui faisait qu'on était une fille ou qu'est-ce qui faisait qu'on était un garçon, et est-ce qu'on n'était pas parfois à l'étroit, justement, dans ces catégories-là. Et pour moi, les personnes qui cherchent à sortir un petit peu de ces carcans, de fait, parce qu'elles ne se sentent pas à l'aise dans leur genre de naissance. Du coup, je trouve que c'est un sujet formidable que ce soit abordé, en fait, et mis en lumière, parce que ces personnes-là, je pense, peuvent permettre de renouveler le débat dans la société, en fait, entière, et y compris en milieu rural.
Nous allons rappeler vos coordonnées, peut-être les horaires d'ouverture.
Oui, alors moi je suis plutôt un bourreau de travail, mon cabinet est ouvert de 8h à 20h du lundi au samedi. Après j'adapte effectivement en fonction de des consultations. Voilà, donc au 17 allée déjeuner, 04 200 Sisteron, donc dans la zone commerciale du Grand U. Et mon numéro de téléphone, c'est le 07 49 92 31 65.
Digne va vibrer sur grand écran.
Rendez-vous est donné aux cinéphiles les mardis 29, mercredi 30 et jeudi 31 mars, salle des rencontres cinématographiques au Centre culturel René Char pour la 48e édition d'un festival réputé. Au menu de ces journées, des films d'ici et d'ailleurs surtout, et bien sûr le concours de courts-métrages et ses prix. Une ouverture vers le monde qui fait une grande place à la création et favorise les découvertes. Chloé Mathieu et Anne Dumanoir, directrices et vice-présidentes des rencontres, présentent le festival au micro d'Odile Frison.
Chloé Mathieu, directrice des rencontres cinématographiques à Digne-les-Bains. C'est la 48e rencontre qui se prépare pour fin mars 2022.
Oui, la 48e rencontre donc, qui se déroulera du 29 mars au 31 mars 2022. Comme chaque année, la thématique des rencontres, c'est justement qu'il n'y a pas de thématique. On essaye de mettre en avant la jeune création cinématographique, essayer de dresser à l'instant T un état des lieux du paysage cinématographique. C'est un bien grand mot, mais en essayant, voilà, une petite sélection, piocher cette année en France, mais aussi en Italie et en Argentine également.
Anne Dumanoir, donc vice-présidente de l'Association des rencontres cinématographiques. Donc, comme chaque année, on organise un concours de court-métrage. Cette année, c'est un peu particulier parce que l'année dernière, on n'avait pas pu présenter notre sélection des courts-métrages 2021. On a voulu la maintenir pour donner une chance aux réalisateurs qui avaient eu le courage de réaliser des courts-métrages pendant cette période de Covid qui a été si compliquée. Et donc, c'est la programmation de 2021 qu'on vous propose cette année. Donc, on a 10 courts-métrages originaires de plusieurs pays différents. Il y a indien, il y a chinois, il y a pas mal de pays. Les membres de l'association ont constitué le comité de sélection. On a visionné pas loin de 200 courts-métrages et donc on en a sélectionné 10. Ce concours est d'abord en entrée libre, donc tous les gens qui sont intéressés peuvent venir de 13h à 17h le mardi 29 mars. 4 prix seront décernés. Le prix de la ville de Digne, décerné par un jury de professionnels, donc professionnels du cinéma, réalisateurs, présidents d'associations de cinéma, du comité d'éducation à l'image, Un prix décerné par le Lions Club, donc qui est décerné par les cinéphiles. Donc un jury de cinéphiles qu'on a sélectionné sur Digne. Un prix du jeune spectateur qui est attribué par un jury de scolaires, donc collégiens et lycéens, et qui est doté par la MGN. Et un prix du public, c'est-à-dire ceux qui assisteront l'après-midi à tous les courts-métrages, voteront en fin d'après-midi pour le court-métrage qui leur a le plus plu. Voilà, ce concours de court-métrage est fait aussi pour encourager les jeunes réalisateurs. Ça leur permet souvent de leur mettre un pied à l'étrier et après, quand ils ont reçu un prix, de pouvoir réaliser un plus long métrage. Et le palmarès aura lieu le mercredi après-midi à 18h15 et on remettra les prix aux heureux élus.
Donc on rappelle juste le jour de présentation des courts-métrages.
Alors les courts-métrages, le mardi 29 mars de 13h à 17h. Pour pouvoir voter, le public doit assister et voir tous les courts-métrages, bien entendu. Et le palmarès, le mercredi 30 mars à 18h15.
Chloé Mathieu, nous on va revenir sur le choix des films, donc les longs-métrages que vous avez sélectionnés. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir voir et quand?
Alors pour la soirée d'ouverture, donc le mardi 29 mars qui viendra suivre le concours de court-métrage l'après-midi, à 20h30, on est très heureux de proposer en avant-première le premier long-métrage d'une jeune cinéaste qui s'appelle Émilie Haussel, L'été, l'éternité. Un film sur la jeunesse, sur ce basculement entre la jeunesse et son insouciance avec l'âge adulte, via un travail de deuil, un film sous la forme d'un carpe diem, un petit peu très solaire aussi en même temps, qui montre au contraire qu'il faut saisir la vie et s'en emparer pleinement. Donc la réalisatrice sera présente. Un film qui nous semble intéressant de montrer parce qu'il vient faire le pendant en fait entre le concours de court-métrage ouvert au premier film de fiction et ensuite des premiers longs de cinéastes qui ont roulé un petit peu plus leur bosse sur les jours suivants. Émilie Haussel vient du court-métrage aussi et donc elle vient faire un petit peu la passerelle, montrer l'après court-métrage, l'après premier film. Le lendemain, on retrouve le ciné Tartine à 14h30, donc un film ouvert aux enfants à partir de 5 ans, Kériti, la maison des contes, un film d'animation sur la lecture, sur l'imaginaire, qui vient faire des petits clins d'œil avec nos héros d'enfance. Le film sera projeté à 14h30 et sera suivi à 16h d'un goûter dans le hall du cinéma. donc 18h15 le palmarès du concours de court-métrage, et on enchaîne après à 20h30 avec La Légende du Roi Crabe, un film italien et argentin qui avait été présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Dans la campagne italienne, de vieux chasseurs se remémorent La Légende de Luciano. C'est un film qui mêle un petit peu fiction, conte, un petit peu documentaire aussi, sur la figure d'un homme errant qui a grandement marqué les esprits.
Et le 31 mars, donc dernier jour.
Et on conclut avec deux projections. La particularité aussi de la rencontre, c'est d'essayer de mêler, de proposer différents genres cinématographiques. Donc on a commencé par de la fiction. Là, on part sur du documentaire avec un film qui s'appelle Là au Perché de Raphaël Mathier et qui a été tourné par chez nous, dans les Alpes de Haute-Provence, dans l'ancienne commune de Chasteuil, qui est rattachée désormais à la commune de Castellane. C'est donc le réalisateur s'est installé dans ce village et a observé un petit peu la ville, la vie du village, pour montrer un petit peu comment l'évolution de ce village à travers des temps, à travers le parcours, le témoignage de ses habitants. Ben, un très beau film qui fait beaucoup écho forcément chez nous. Et on conclura à 20h30 avec Luzu de Alex Camilleri, un film maltais qui fait lui aussi en fait le petit peu la jonction entre la fiction et le documentaire. C'est une fiction donc avec un scénario, des personnages, mais inspiré de la vie de ce jeune pêcheur, Jess Mark, qui pour empêcher qui va pour subvenir aux besoins de sa famille reprend l'industrie familiale de la pêche et se tourne bon vers le marché noir pour sauver sa famille.
Et Chloé Mathieu, merci. Donc rendez-vous dès le 29 mars, c'est ça?
À partir de 13h pour le concours de court-métrage.
Salle des rencontres cinématographiques au Centre culturel René Char à Digne-les-Bains. Merci.
Les rendez-vous de Désir de lire autour de la littérature à Sigons.
L'association Désir de lire, dont la présidente et fondatrice est Evelyne Sagne, continue de promouvoir la littérature dans les Alpes de Haute-Provence. Et outre la résidence actuelle d'Arnaud Bertina, elle propose trois rendez-vous à venir à Sigons, près de Fort-Calquier. Tout d'abord le 9 avril, pour une journée avec les éditions Elizade, originaires de Tunisie. Ensuite, le 21 mai, Hélène Gaudy et Arnaud Delacote seront ses invités en partenariat avec la Marelle de Marseille. Et enfin, le 15 octobre, rendez-vous sur la traduction littéraire avec Florica Curiol et Doina Rusti, une autrice roumaine, ainsi que les éditions du Typhon. Evelyne Sagne présente ces événements au micro de Mathieu Marc.
La première journée, le 9 avril, est autour de l'édition. Nous avons invité une maison d'édition tunisienne qui s'appelle Elizade, avec donc sa fondatrice et directrice, Elisabeth Daldoul. Nous avons invité avec elle un auteur qu'elle a publié, Yemen Manaï, dont le dernier livre, Bel Abîme, connaît une belle carrière et a reçu des prix. Et c'est un très, très beau livre, très fort et dans une tension assez extraordinaire, le monologue d'un adolescent en rébellion, et c'est un très beau texte, pas très long, mais très très beau texte. Donc ils seront là le 9 avril, le matin, pour des échanges autour de cette maison d'édition, ses objectifs, ses enjeux, qu'est-ce qu'être éditrice, une femme éditrice en Tunisie, c'est aussi quelque chose de particulier, et les échanges autour des livres de Yémen. Et l'après-midi, nous avons prévu un débat qui sera animé donc par Elisabeth Daldoul, la directrice, autour de manuscrits qu'elle nous a confiés il y a quelques semaines. Ces manuscrits, un groupe de lecture s'est formé pour les lire, réagir à ces textes. Et ensuite, avec elle, on en parlera et elle nous expliquera aussi pourquoi il y en a probablement un qui sera édité et pas les deux autres, comment elle fait ses choix, quel travail elle mène ensuite avec les auteurs sur ces manuscrits.
Comment s'est passée cette rencontre avec cette personne de l'autre côté de la Méditerranée ?
C'est des hasards tout à fait. C'était un moment où je contactais des maisons d'édition avec l'idée de les accompagner dans la relecture de manuscrits, justement. Et j'avais contacté Elisabeth Daldoul. Je sais pas, c'est comme toujours dans les relations humaines, il s'est passé quelque chose aussi entre nous. Et puis j'ai beaucoup mieux connu sa maison d'édition. J'ai lu ses textes et je trouve vraiment qu'elle a un catalogue, un très beau catalogue. Et les choses se sont mises en place. Et quand je lui ai proposé de venir à Sigons, elle a dit oui tout de suite.
Le rendez-vous est donné donc, et la date suivante, c'est en mai.
Donc la deuxième journée, ce sera le 21 mai. Là, nous avons invité une autrice, Hélène Gaudy, qui est éditée chez Actes Sud, Inculte, entre autres, et qui viendra accompagnée d'Arnaud Delacote. Alors Arnaud Delacote se dit filmeur, il n'est pas cinéaste, il n'est pas réalisateur, il est filmeur. Ils ont déjà travaillé ensemble, donc il y a une relation entre eux de travail et d'amitié, je pense aussi. Arnaud Delacote est aussi en résidence à La Marelle à Marseille, donc c'est un partenariat aussi avec La Marelle à Marseille. Et ils proposeront un atelier en commun autour de l'image et de l'écriture et des textes.
Et cette troisième journée en octobre ?
Le 15 octobre, et là c'est une journée autour de la traduction. Puisque nous avons invité une traductrice du roumain, enfin elle traduit du roumain en français et du français en roumain, Florica Curiol. Elle viendra avec une autrice roumaine qu'elle a traduite et dont le livre vient de sortir. Et elle viendra avec l'éditeur, ce sont les éditions du Typhon à Marseille, qui édite ce livre. Et ils viendront tous les trois pour parler de ce travail traduction, écrire, être traduit, être édité. Et il y aura un atelier qui n'est pas encore, qui sera probablement une forme d'initiation à ce qu'est la traduction littéraire, une initiation, mais pour faire comprendre un peu le travail de la traductrice. Il y a aussi, au cours de ces journées, quelque chose de particulier, c'est qu'il y a le déjeuner, est un déjeuner qui est pris en commun au bistrot de l'Amandier à Sigons. Donc c'est vraiment une journée à Sigons complète. Ça permet des échanges différents aussi avec les invités au cours de ce déjeuner, pour les trois journées.
Ryan, dimanche 27 mars, une diva plante son sofa.
L'après-midi ne sera pas triste ce dimanche à Ryan. La compagnie de théâtre de Pierre Vert, le Quoi qu'on dit, y présentera La diva du sofa, une pièce d'Angélique Sutti, mise en scène par Annick Estève. Cette dernière a rajouté quelques clins d'œil locaux au texte initial pour des effets comiques garantis. Car c'est une comédie sur fond de showbiz où l'argent et l'hypocrisie jouent leur partie, mais dans le but de faire rire. La diva du sofa est l'histoire d'une cantatrice qui tente un retour après plusieurs années d'absence. Écoutons Annick Estève et Jean-Jacques Ibos présenter cette pièce. Présidente de la compagnie Le Quoi qu'on dit, Annick Estève rappelle l'histoire qui les lie.
Rappelez-nous l'histoire de votre compagnie amateur.
C'est une compagnie que j'ai reprise en 2010, pour laquelle nous avons joué tous les ans une comédie de Molière, en passant par Marcel Achard, Jean Anouilh, etc.
Votre vocation, c'est de faire rire le public ?
Exactement. Et on en a vraiment besoin en ce moment. Ce que je dis à chaque fois que je rencontre des gens pour faire notre promotion... Nous avons bien besoin de rire, et là, vraiment, cette année, nous rions.
Alors, vous êtes aussi une équipe d'amateurs, et vous vous retrouvez parce que vous avez la passion du théâtre et de la représentation scénique.
Je suis le metteur en scène de cette pièce. Enfin, tous les six, nous avons vraiment besoin d'avoir ce contact avec le public. Enfin, c'est ce qui fait vivre la compagnie.
À vos côtés, un de vos comédiens, Jean-Jacques Ibos, qu'on connaît bien sur notre antenne. Jean-Jacques, vous êtes un comédien et en même temps, vous allez accompagner cette diva du sofa.
Je vais l'accompagner, oui, et lui faire essayer de faire jouer un tour qu'elle ne prévoit pas. Toute l'intrigue est là-dedans, mais je ne vais pas dévoiler le résultat de cette pièce qui est très comique et dont les spectateurs jusqu'à présent nous ont bien fait partager leur rire.
On est dans le milieu du show business.
Oui, le milieu impitoyable du show business.
Impitoyable et cruel.
Et il joue son rôle d'escroc à merveille.
Jean-Jacques Escroc, il fallait le dire. Jean-Jacques, c'est un plaisir d'être sur scène aussi et de partager avec le public ses émotions.
C'est quelque chose qui est vraiment très très agréable. Il y a deux plaisirs. Il y a avant de rentrer sur scène, quand on entend les gens dans la salle qui sont là et qui attendent quelque chose, et quand on joue et que les gens rigolent, je peux vous dire que ça nous donne un aspect, on y met tout son cœur.
Est-ce que je crois savoir aussi que c'est la dernière de votre représentation ?
Exact, voilà. Après, nous plions bagage pour cette pièce-là et nous mettons au travail pour la pièce prochaine que nous sommes en train d'écrire.
Donc on ne va pas la dévoiler, mais bon, rendez-vous donc dimanche 27 mars, 15h30 à la salle des fêtes, et c'est Ariane.
C'est la fin de ce magazine. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau Force 7, François.
Pas de problème. Merci Olivier pour la régie. Thank you.